Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. S'exercer à se poser des questions fondamentales sur les sens de l'existence dans un contexte dominé par l'informatique et l'Internet. Renforcer la présence missionnaire sur les plateformes digitales afin d'apporter Jésus dans nos cultures. Ce sont deux invitations adressées vendredi par le pape à deux groupes de jeunes réunis en Italie et au Mexique. Que les jeunes aillent voter sans se laisser emporter par la violence. Invitation des évêques du Kenya à l'approche des élections présidentielles et parlementaires dans ce pays. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira au Tchad, au Mali, au Sénégal notamment. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Cambachi.
Le pape François a reçu vendredi en audience le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les causes des saints. Durant l'audience, le Saint-Père a autorisé la publication des décrets sur les martyrs et les vertus héroïques des six serviteurs des dieux pour leur future béatification. Le pape François a reçu vendredi au Vatican les jeunes Italiens et Européens du camp Alpha, un camp d'été organisé à Macchia di Zernia, au centre d'Italie. Le Saint-Père les a invités à s'exercer, à se poser des questions fondamentales sur les sens de l'existence, malgré les contextes de vie dominés par l'informatique et l'Internet. Demandez-vous souvent « qu'est-ce que je cherche ?» Dans un monde sécularisé et qui veut écarter toute référence au sacré, Jésus reste la plénitude, l'alpha et l'oméga, a rappelé François. Le pape les a par ailleurs appelés à rejeter des antivaleurs comme l'égoïsme, l'égocentrisme et les paraître, car Dieu n'aime pas les photocopies mais seulement l'original. Face au mal, ne jamais s'échapper mais prendre vos responsabilités pour les conjurer, leur a encore dit le pape. Le Saint-Père a par ailleurs adressé un vidéo-message aux jeunes participants à ECOS 29, une rencontre de jeunes missionnaires de l'Évangile sur des plateformes digitales. Dans notre monde dominé par l'Internet, le pape a rappelé la nécessité d'une créativité pastorale afin de trouver de nouvelles formes d'annoncer aux personnes l'Évangile en les rencontrant où elles vivent. Que cette annonce de l'Évangile sur les digitales renforce la présence missionnaire et soit pleine d'humanité et de charité afin de porter Jésus dans nos cultures, a encore dit le pape aux jeunes réunis au Mexique. Les résultats du bilan du Saint-Siège pour l'année 2021 sont meilleurs par rapport à ce qui était prévu. Analyse du père jésuite Juan Antonio Guerrero, préfet du dicastère pour l'économie. Suivant ces statistiques, les déficits annuels s'élèvent à 3 millions d'euros par rapport aux 33 millions prévus. Pour le père Guerrero, c'est un pas en avant dans la transparence et la durabilité concernant l'économie du Saint-Siège. Mais d'autres efforts doivent être fournis malgré les résultats positifs, a-t-il prévenu. Voter sans se laisser emporter par la violence, ni par la corruption ou par quelques manipulations ou incitations à la haine tribale. C'est le message adressé aux jeunes du Kenya par les évêques à l'approche des élections présidentielles et parlementaires du 9 août. Christine Kingombe.
Les jeunes, allez voter sans vous laisser emporter par la violence. C'est l'appel adressé aux jeunes par les évêques du Kenya à l'approche des élections présidentielles et parlementaires du 9 août. Pour nombre d'observateurs, cette période préélectorale est caractérisée par une certaine apathie, notamment de la part des jeunes, désabusés par les promesses faites lors des précédentes campagnes électorales. Toutefois, la crainte des violences post-électorales comme par le passé demeure. Les violences post-électorales de 2007 et 2008 avaient fait plus de 1000 morts, principalement lors des affrontements entre Kikuyu et Kalenjin. Dans un message vidéo, Mgr Anthony Muheria, archevêque de Nyeri, recommande aux jeunes de préserver la paix car la paix est un don de Dieu. Il met en garde contre le risque d'être victime des machinations politiques, de l'attrait du tribalisme et de l'incitation à la haine. Mgr Muheria recommande aussi de rejeter toute forme de corruption ou de manipulation et d'instrumentalisation jusqu'à la violence. Les élections visent la construction quotidienne de la nation, rappelle l'archevêque de Nyeri. Quatre candidats sont en lice pour la présidence au Kenya, les favoris sont l'actuel vice-président William Ruto et Raila Odinga, ancien chef de l'opposition.
Actualité sociopolitique africaine. Au Tchad, les chefs du gouvernement militaire et les groupes d'opposition signeront un accord lundi à Doha pour entamer des pourparlers de paix visant à organiser les prochaines élections. La signature aura lieu entre les militaires au pouvoir et une cinquantaine de groupes rebelles après les dialogues préliminaires tenus dans la capitale du Qatar. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, est attendu à Doha samedi. Au Mali, l'ONU confirme l'implication de l'armée régulière et du groupe Wagner dans la mort début mars de 33 civils, dont 29 Mauritaniens et 4 Maliens. C'est ce qu'a indiqué un rapport d'experts missionnés par les Nations Unies. Les corps de ces civils ont été retrouvés à quelques kilomètres du village de Robinet El Ataye, dans la région de Ségou, où ils ont été arrêtés, ligotés et abattus le 5 mars dernier. Au Sénégal, le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale après la proclamation jeudi des résultats officiels provisoires des élections qui se sont tenues le 31 juillet. La coalition du président Macky Sall passe de 125 députés en 2017 à 82 sur les 165 que compte l'Assemblée. C'est une première dans ce pays que la formation au pouvoir perd de la majorité absolue. Elle doit désormais s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ses lois. Au Cameroun, la dernière résurgence du choléra a fait au moins 200 morts sur plus de 10 300 cas qui ont été répertoriés depuis octobre 2021, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Manuada Malachi, tout en appelant la population à se protéger. Parmi les zones touchées, les littorales, qui comprend Douala, la capitale économique, et la région du centre qui englobe la capitale Yaoundé, a indiqué le ministre de la Santé. Au Burkina Faso, au moins 12 civils et 3 soldats ont été tués dans des attaques simultanées des djihadistes présumés dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires locales, des hommes armés ont attaqué les détachements militaires de la commune rurale de Bourzanga dans la région du centre-nord et ont tué 3 soldats, puis des positions des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs, dans la localité d'Alga située dans la même commune, tuant ainsi 9 personnes. Nous vous proposons à présent la seconde et dernière partie de l'interview que le coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et les Sahel, Dr Gwatoue Robert Gueye, a accordé à Radio Vatican sur les risques de la famine en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Face à cette situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui pourrait concerner au moins 40 millions de personnes vivant dans ces régions, la FAO a mis en place quelques stratégies. Dr Robert Gueye.
Compte tenu de l'aggravation de la situation, nous venons de développer une stratégie pour pouvoir aider les pays de façon beaucoup plus vigoureuse. Et cette stratégie a deux volets. Et c'est le bureau sous-régional de la FAO de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui a élaboré cette stratégie. Il y a des franges de la population qui sont vulnérables et qui ont besoin d'assistance dans l'immédiat cette année pendant les saisons qui viennent, là, la contre-saison et la saison de production de l'année prochaine. À cela, il faut une aide immédiate et les accompagner les pays à diversifier d'abord les approvisionnements alimentaires et les sources d'importation, compte tenu de la crise dont je suis en Ukraine. Aussi, aider les pays à réorienter immédiatement une partie des ressources financières disponibles pour accroître le soutien aux ménages les plus vulnérables et ceci grâce à l'expansion aussi des systèmes de protection sociale. Ensuite, il faut mettre à disposition immédiatement des engrais, des semences améliorées, les petits outils de production avec un appui technique. Et donc, nous travaillons déjà avec le gouvernement pour ça, pour que cet appui immédiat soit apporté. Et ensuite, développer au niveau sous-régional, aider la CDAO à développer un mécanisme robuste d'achat groupé d'engrais à l'échelle des corridors, des ports et des routes dans cette région en mobilisant des grands producteurs d'engrais, etc. C'est le premier volet de cette stratégie. Le deuxième volet, c'est à court et à moyen terme. La crise ukrainienne ici, l'effet se traduit par le manque de blé actuel et aussi ce qu'on prévoit à venir, puisqu'on a fait une étude avec le PAM et la CDAO dans ce sens-là. Alors, il faut relancer alors le développement des chaînes de valeur agricoles. Les céréales de l'Afrique de l'Ouest, le maïs, le riz, le mil, le sorgho. Il faut ajouter à ça même le manioc, qui sont les tubercules, le niébé, le maraîcher, tout ça. Donc, il faut augmenter la production locale pour une souveraineté alimentaire. Et au niveau de l'élevage aussi des pêches, il faut développer les chaînes de valeur pour réduire la dépendance de nos différents pays à l'extérieur. Et tout ceci va s'accompagner par les nouvelles technologies de l'innovation telle que la digitalisation ou l'accès au marché, la distribution des intrants. La FAO va appuyer la CDAO et les gouvernements à développer un commerce régional des produits agroalimentaires tel que déjà prévu par l'Union africaine. Ce cadre de mise en œuvre de la zone de libre-échange est vraiment quelque chose sur lequel la FAO doit travailler. Mais toute cette stratégie a besoin de financement. Et donc, nous travaillons aussi avec des bailleurs de fonds pour qu'ensemble, on puisse avoir le financement disponible pour pouvoir aider efficacement les pays.
Et à combien s'élève ce financement?
Les pays ne sont pas au même niveau de développement. Donc, ça va entre 300 millions de dollars à 600 millions de dollars US.
Comment réduire cette dépendance de l'Afrique en matière de blé?
Nos pays ont été habitués à manger le pain. Et ce pain-là venait du blé. Alors donc, ça fait que les gens dépendent du blé pour faire ce pain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si tous les boulangers qui sont ici font maintenant le pain à partir de nos céréales. Donc ici, je suis à Dakar, et à Dakar, on peut trouver déjà le pain à base de mil, à base de sorgho, à base de maïs, de niébé, etc. Il y a le pain maintenant à base de farine de manioc, de patate, mélangé aussi avec le blé. Maintenant, les gens ont compris qu'il faut une souveraineté alimentaire et que le pain peut se faire maintenant avec nos propres céréales, qui d'ailleurs sont beaucoup plus nutritives et qui n'ont pas de gluten, etc. Alors donc, c'est une opportunité que cette crise doit offrir à l'Afrique de l'Ouest pour que cette dépendance maintenant soit réduite, pour que les gens puissent vraiment développer les céréales locales avec une chaîne de valeur beaucoup plus robuste pour résoudre le problème de dépendance.
Un mot de la fin.
L'appel que je voudrais lancer vraiment à nos pays et tout ça, c'est de prendre ça comme une opportunité et véritablement investir dans l'agriculture. L'Union africaine avait demandé à chaque pays de dépenser au moins 10% du budget dans l'agriculture. Aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 4 ou 5 pays qui l'ont fait sur 54. Alors, donc, vraiment, c'est un appel qu'on lance aux pays d'investir massivement dans l'agriculture. C'est possible. On peut résoudre le problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela prend des investissements. Et donc, nous les encourageons. La FAO sera toujours là à leur côté pour les appuyer.
Docteur Gwatoué Robert Gay, coordinateur sous-région de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, interrogé par Françoise Niamia.
Vaccin pour tous.
Les vaccins peuvent-ils causer d'autres problèmes de santé? C'est à cette préoccupation que répond Dr Franck Unjanoué, médecin pédiatre, chef du projet QAM à l'hôpital pédiatrique de Bangui en Centrafrique, dans la minute consacrée à notre campagne Vaccin pour tous.
Non, en réalité, comme tout vaccin, ce n'est pas l'apanage des vaccins, du vaccin ou des vaccins contre la COVID-19. Comme tout médicament, d'ailleurs, on peut avoir des effets indésirables mineurs. C'est pas l'apanage du vaccin COVID, comme je le disais. Mais ça ne va pas engendrer des problèmes de santé majeurs. Il peut y avoir des événements mineurs, des maux de tête, des petits troubles digestifs, la fièvre, ainsi de suite. Quand vous avez un problème de santé, il faut vous adresser, évidemment, à votre médecin. Ce n'est pas l'apanage du vaccin anti-COVID. On peut faire une allergie, comme on peut faire une allergie à tout autre vaccin. Mais ce n'est pas, je précise, ce n'est pas l'apanage du vaccin anti-COVID. Donc, le vaccin anti-COVID n'est pas fait pour causer d'autres problèmes de santé. Au contraire, c'est fait pour réduire la propagation du virus, réduire, donc, l'impact sanitaire au niveau mondial afin que la population mondiale se porte mieux.
Docteur Franck Unjanoué, médecin pédiatre, chef du projet QAM à l'hôpital pédiatrique de Bangui en Centrafrique, dans des propos recueillis par Françoise Niamia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
the world.